C'est bon, on commence, on est dans l'Épître aux Hébreux. On est rendu à, attendez un petit peu, au chapitre 6. On va lire le chapitre 6 au complet. Puis on avait commencé, on avait dit c'était une parenthèse. Il nous parlait du souverain sacrificateur, un plus grand sacerdoce. C'était avec le Seigneur Jésus. Puis, mais il fait une parenthèse à partir du verset 11 du chapitre 5 en disant, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, au chapitre 6, il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole, on va demander son aide ce soir. Seigneur notre Dieu, on est encore dans ta présence, réunis tout ensemble, Seigneur, parce qu'on a un désir commun, c'est d'approfondir ta parole, de pouvoir comprendre les choses que tu y as écrites pour notre instruction, afin qu'on puisse te servir d'une meilleure façon et afin aussi qu'on puisse t'aimer d'une façon plus grande à cause de tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci pour ces choses. Puis on veut avancer, Seigneur, ne pas rester au lait, mais aller dans la nourriture solide, afin de devenir mature dans notre foi. On t'en rend grâce, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK, juste avant, je vais oublier de vous annoncer que la conférence à Rivière-du-Loup, eh bien, elle va être diffusée sur Zoom. Pour ceux qui ne pourront pas y être en présence, elle va être diffusée sur Zoom, puis on va utiliser le même lien qu'on utilise pour la réunion du lundi soir. Donc, si vous prenez le lien qu'on utilise pour le lundi soir, vous allez pouvoir vous connecter sur Zoom. Puis ça commence à 10 heures le samedi matin. Puis ça arrête pour le dîner. Ensuite, ça continue jusqu'à 5 heures. Puis après ça va être la fin de la conférence. Donc, ceux qui voudront, vous pourrez vous connecter avec le lien qu'on utilise le lundi soir. OK, maintenant, on va commencer. Comme on avait parlé la dernière fois, on avait commencé dans cette parenthèse-là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux ici, il fait une pause en parlant du souverain sacrificateur, d'un plus grand sacerdoce, un plus grand sacrificateur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, qui n'est pas selon le sacerdoce d'Aaron, les fils de Lévi, mais c'est un sacerdoce selon Melchisédek. Puis c'est toute une différence parce qu'il, lui, il demeure éternellement. Il n'y a pas un sacerdoce qui est transmissible. Mais Paul ici, on dit souvent Paul, mais en tout cas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ça semble des fois être Paul, mais on n'est pas sûr. C'est qu'on dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il fait une parenthèse parce que il pousse assez loin dans une connaissance plus grande, puis ils ont besoin d'être exercés. Ils ont besoin de ne plus être comme des enfants, mais d'avoir une certaine maturité dans la parole par l'usage de la parole, c'est-à-dire d'apprendre à discerner le message de la parole de Dieu. Et là, maintenant, il pousse plus loin. Puis la semaine passée, on avait commencé dans ce qu'il disait, là, il nous parlait au chapitre 6, au verset 1, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Donc, il parlait de ce qui était élémentaire. Et sans poser de nouveau le fondement, puis là, on avait parlé du renoncement aux œuvres mortes, c'est les œuvres qu'on a faites avant d'être sauvés, dans le but de gagner le salut. Puis on s'est aperçu, donc on avait parlé de la repentance, qu'on met de côté ces œuvres-là parce qu'ils ne peuvent pas rien faire pour le salut. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvés, c'est par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est des œuvres mortes, c'est des œuvres qui ne comptent pas. Puis après ça, il avait parlé de la foi en Dieu. Au moment où on s'est repenti de ce qu'on mettait notre confiance dedans pour être sauvé, on a maintenant mis notre confiance dans le Seigneur Jésus, dans l'œuvre que lui a accomplie sur la croix. Ça, c'est la foi en Dieu. Et de la doctrine des baptêmes, on a parlé qu'il n'y a pas juste un baptême, il y a différents baptêmes. On avait parlé des différents baptêmes. De la résurrection des morts, la résurrection, c'est important aussi parce que dans la résurrection, c'est la délivrance. Le péché a amené la mort. Mais la résurrection amène la vie tant au point de vue physique que spirituel et aussi moral dans nos membres. Donc on démontre la puissance de résurrection. Du jugement éternel pour ceux qui rejettent, que c'est un jugement éternel, c'est les gens qui nous disent que quand on meurt, si on n'est pas sauvé, on n'existe plus. Et non, il y a une résurrection aussi des méchants qui vont être séparés de Dieu pour l'éternité dans l'étang de feu. Attendez, on était rendu la dernière fois. Ouais, on arrivait à la résurrection des morts. Donc, quand on arrive à la résurrection des morts ici, c'est la rédemption du corps. Ça, c'est dans le futur de notre salut. On sait que le Seigneur nous a fait la promesse que quand il va revenir pour prendre son Église, pour l'emmener avec elle, eh bien, on va ressusciter. Ceux qui sont morts vont ressusciter. Ceux qui sont vivants vont être transformés. Ils vont être changés en un instant d'un clin d'œil pour aller à la rencontre du Seigneur sur la nuée. Puis ainsi, notre corps, on va avoir un corps qui va être immortel, un corps qui va être incorruptible, un corps qui va durer pour toute l'éternité, qui ne vieillira pas. On va être dans la présence de Dieu avec notre corps. Mais aussi, la résurrection des morts, dans le passé de notre salut, pour ceux qui sont sauvés, si quelqu'un n'est pas sauvé, ce n'est pas au passé, mais pour ceux qui sont sauvés, le moment où on a mis notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés, eh bien, Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous viviez autrefois, mais il dit qu'au moment de notre salut, on était ressuscités avec Christ, puis on était assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, il y a la résurrection spirituelle qui nous a, au niveau de l'esprit, qui nous a mis en communication avec Dieu. Puis là, on reçoit les choses de l'Esprit de Dieu quand il communique, parce que lui communique au niveau de l'Esprit avec nous. Mais aussi, on vit présentement dans les corps dans lesquels on vit, eh bien, cette puissance de vie de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ pour que dans nos membres, on démontre la puissance de la vie, puis que nos membres ne soient plus des instruments de péché, mais qu'ils soient des instruments de justice. Quand on est contrôlé par l'Esprit, on voit ça dans Romains au chapitre 8, il nous explique que l'affection de la chair, c'est la mort, mais d'être conduit par l'Esprit, c'est la vie. Puis c'est quand la puissance de l'Esprit de vie en Jésus-Christ vient se manifester dans nos membres. C'est ça la résurrection des morts. Et dans le présent de notre salut maintenant, aussi, on a la possibilité de vivre dans cette puissance de résurrection-là pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Le jugement éternel, ben ça, c'est le sort de ceux qui refusent l'Évangile. Parce que, comme dans Matthieu 16, 17, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Donc, il y a vraiment un jugement éternel pour ceux qui ne se convertiront pas, ceux qui ne mettront pas leur foi dans l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie sur la croix pour nos péchés. Puis, maintenant, on arrive à un passage des versets 4 à 6 du chapitre 6 d'Hébreux. C'est un passage difficile de la parole. Puis certains l'utilisent, ce passage-là, pour appuyer leur fausse doctrine qu'on peut perdre le salut. Ceux-là qui croient à la perte du salut vont utiliser ce passage-là pour démontrer qu'il est possible de perdre son salut. Mais une chose qui est importante, peu importe l'interprétation qu'on donne à un passage, il faut qu'il soit en accord avec le reste de la parole. Si l'interprétation qu'on donne du passage rentre en conflit avec un autre passage de l'Écriture, bien, on s'est trompé. On a mal interprété. Donc, c'est important que notre interprétation du passage soit toujours en accord avec le reste des Écritures. C'est pour ça que Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, 20, il dit, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça veut dire qu'on peut pas isoler un passage du reste des Écritures puis en donner une explication qui viendrait contredire d'autres passages de l'Écriture. Ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'on va partir dans des fausses doctrines. Mais c'est qu'on ne peut pas isoler un passage de l'Écriture. L'interprétation qu'on en donne doit s'harmoniser avec toute l'Écriture. Mais quand on pense, si on veut dire qu'on peut perdre notre salut, bien, il y a des versets, il y a plusieurs passages qui sont très clairs sur le fait qu'une fois sauvé, on ne peut plus être perdu. Le salut est éternel. Le Seigneur nous donne la vie éternelle. Si on pouvait la perdre, ce ne serait pas la vie éternelle. Mais entre autres, un des passages que j'aime beaucoup par rapport à la sécurité éternelle du croyant, c'est celle de Jean 10, 28, 29. Le Seigneur Jésus dit, c'est lui, je leur donne la vie éternelle. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons gagnée, c'était un don de Dieu. Je leur donne la vie éternelle. Déjà là, ça devrait être assez pour nous convaincre que cette vie-là dure pour l'éternité. C'est la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. C'est comme si le Seigneur continue d'ajouter pour nous donner de l'assurance, pour qu'on soit certain, qu'on ne soit pas dans le doute par rapport à notre salut. Et elles ne périront jamais. Donc, si on pouvait perdre notre salut, ce verset-là ne serait pas vrai, parce que ce serait possible qu'on puisse périr. Mais il dit, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc, on est dans la main du Seigneur Jésus, puis c'est impossible. Quand il dit personne, ça m'inclut moi aussi. Donc, il n'y a personne qui peut nous ravir de sa main. Et encore, il va encore plus loin que ça. Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, on est doublement sécure dans le salut que le Seigneur Jésus a accompli pour nous. Puis, du fait aussi que ce salut-là ne dépend pas du tout de ce que nous, on a accompli. S'il y avait une part qu'on devait faire pour être sauvé, bien, c'est sûr qu'on pourrait avoir des doutes. Mais quand on regarde l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ, lui qui l'a accompli et avant de mourir, il a pu dire, tout est accompli. Puis, à suite de ça, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, C'est ça qui est la garantie. Il y a d'autres passages qu'on pourrait lire, mais on ne le fera pas ce soir. Donc, il faut maintenant que notre interprétation ne rentre pas en conflit avec la certitude, la sécurité éternelle du croyant. Donc ici, c'est pas quelqu'un qui était sauvé. Ça, c'est, parce que à la fin, comme il dit, là, il dit, il est impossible ceux qui sont tombés au verset 6 soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc, c'est impossible qu'ils reviennent. Donc, c'est pas quelqu'un, le passage ici ne nous décrit pas quelqu'un qui a connu la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'il nous parle ici? C'est une expérience qui précède le salut. Parce qu'avant qu'on soit sauvé, on a besoin d'être éclairé par le Saint-Esprit. On a besoin d'entendre l'Évangile. On a besoin d'être éclairé. On a besoin de comprendre que quand on met notre confiance, puis on a renoncé aux œuvres mortes, on s'est repenti, puis qu'on met notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, bien, il faut avoir compris l'Évangile. Ça, c'est important. Ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit qui se fait. Donc, c'est une expérience qui précède le salut. C'est comme venir à la porte, puis retourner en arrière. Pas entrer, mais sortir. On vient à la porte pour entrer, puis au lieu d'entrer, parce qu'on est toujours libre, le Seigneur va respecter notre choix. Le Seigneur ne forcera personne. Il n'y a personne qui va dire, quand ils vont être au ciel, ben moi, je ne voulais pas venir ici, puis il m'a forcé. Parce que le Seigneur respecte le choix de chacun, mais la conséquence vient avec le choix. C'est ça qui va arriver. Donc, il y a une œuvre du Saint-Esprit qui se fait avant le salut. C'est important. Une œuvre qui se fait avant le salut, c'est l'œuvre de conviction du Saint-Esprit. Conviction de péché, conviction de jugement, puis conviction de la justice qui se trouve dans l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie pour nous. Donc, Paul le décrit ici, ben, encore là, c'est pas nécessairement Paul, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, si je dis ça des fois, là, je pense que je me suis trompé, parce qu'on n'est pas sûr. Mais il décrit l'expérience de cette façon. Il dit qu'au verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, donc ils ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste. Puis on s'en souvient, quand on a vu le salut, c'était merveilleux. Le Saint-Esprit nous a éclairés dans la parole de Dieu parce qu'on cherchait. Puis il dit qu'ils ont goûté la bonne parole de Dieu, qui ont compris la parole de Dieu, qui ont compris que s'ils mettaient leur confiance dans l'œuvre que le Seigneur Jésus avait accomplie sur la croix, ben, ils allaient être sauvés. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. C'est comme si la porte était ouverte, puis ils ont vu de l'autre côté, ils ont vu les puissances du siècle à venir et qui sont tombées, soient encore renouvelées et amenées à la repentance. Donc, ça c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu qui se fait avant d'être sauvé. Je me souviens, Ralph Challis, il décrivait ça, il y avait l'œuvre de conviction du Saint-Esprit avant le salut pour nous emmener au salut. Puis ensuite de ça, il y a une œuvre instantanée du Saint-Esprit qui est il y a cinq choses qui arrivent. On ne décrira pas toutes ces choses-là ce soir, mais il disait c'était comme la main de Dieu avec cinq doigts qui vient prendre le pécheur pour le faire entrer. Mais ensuite de ça, ben, il y a sept actions progressives de l'Esprit qui viennent après le salut. Donc, tu as l'œuvre avant le salut, tu as l'œuvre du Saint-Esprit au moment du salut, puis tu as l'œuvre du Saint-Esprit qui continue après le salut. Donc, ça, c'est important. On n'aura pas le temps ce soir de tout décrire ces choses-là. Mais la différence, c'est qu'au moment de dire oui, on peut encore dire non. C'est pour ça qu'il dit qu'ils sont tombés. Puis, on le voit dans la parabole du semeur, hein, il y a trois terrains qui reçoivent la semence. Il y a un terrain que, sur le bord du chemin, l'ennemi vient, il enlève la semence, puis il n'y a rien. Il y a pas de... Mais il y a deux autres terrains, les endroits pierreux, ça pousse rapidement, mais parce qu'il n'y a pas de profondeur dans le sol, puis le soleil vient à cause des persécutions, le Seigneur dit, le soleil vient, puis ça sèche. Il n'y a pas de fruits. Aussi, il y a un autre grain qui tombe parmi les épines. Puis quand il tombe parmi les épines, bien, ça commence à pousser, mais les épines pousse par-dessus puis étouffe la semence. Puis il n'y a pas de fruit non plus. Mais il y a un grain qui tombe dans la bonne terre, puis lui porte du fruit, un grain 100, un grain 60, un grain 30. Donc, mais il y a quand même, il y a des deux autres terrains, il y avait comme eu une réaction à cette semence-là, mais les tribulations, peut-être que quelqu'un les a, à cause d'une relation, à cause d'une persécution, ils vont retourner. Ou parmi les épines, ben là, ça va changer ma vie, puis il y a des gens qui viennent près du salut. Puis, à cause peut-être d'une relation avec quelqu'un ou du fait qu'ils vont voir la persécution qui vient, puis ils reculent, ils sont tombés. Il y a ceux aussi qui, à cause qu'ils voient que ça va changer leur vie, puis ils ne veulent pas changer leur vie. Ils voient que le salut, ça va faire une différence dans leurs choses qu'ils vivent. Puis là, ils reculent, ils disent non, moi, je ne veux pas ça, moi, je veux continuer ma vie comme avant. Puis le Seigneur va respecter ce choix-là. Mais sont tombés, mais ils n'ont pas été sauvés. Vous savez, c'est un petit peu comme Judas. Judas, il a embrassé la porte du ciel, puis il s'est en allé dans les temps de feu. Mais il est venu près, il a entendu, il était avec eux autres, il a vu, même il semble qu'il aurait fait des miracles aussi quand les disciples avaient été envoyés par le Seigneur Jésus. Puis quand le Seigneur a dit que l'un d'eux allait le trahir, eh bien, ils ne savaient pas, ils n'ont pas reconnu Judas. Donc, il semblait être comme les autres, mais Judas n'a pas été sauvé. Il a vu, il est venu proche, il a même embrassé le Seigneur Jésus, puis il a donné un baiser, puis il est retourné en arrière, il est tombé. Donc, c'est ça qui est important. C'est comme dans un mariage. Vous savez, dans un mariage, les préparatifs sont tous faits, on a fait une entente, les préparatifs sont tous faits, il y a eu les fiançailles, mais on prépare le mariage. Puis on arrive devant celui qui officie pour le mariage et tous les témoins qui sont là, puis on peut encore dire non. À ce moment-là, quand il demande, voulez-vous prendre? Puis là, à ce moment-là, quelqu'un peut dire non, puis reculer, puis on vient de bord. Il est venu proche, tout était là, tout était fait, mais il a dit non. Puis c'est un peu comme ça pour des gens qui vont venir tellement proche, ils comprennent qu'ils sont des pécheurs, ils comprennent que la seule façon d'être sauvés, c'est le Seigneur Jésus qui a accompli l'œuvre sur la croix. Et ensuite de ça, ils retournent en arrière. Ils sont tombés, comme il dit ici, là, il dit, et qui sont tombés au verset 6, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. J'aime l'histoire dans Genèse 24 de Rebecca, qui a été le serviteur d'Abraham, est allé chercher une épouse pour Isaac. Puis quand il est allé chez la famille de Laban, ben, il est allé pour aller chercher une épouse. Puis il a démontré, il a donné des dons, il a donné des cadeaux pour montrer les richesses de son maître qui l'envoyait chercher une épouse pour son fils Isaac. Puis, en devenant l'épouse d'Isaac, elle entrait dans toute la bénédiction de son maître. Elle entrait dans la possession de toutes ces bénédictions-là. Mais quand il a proposé, ils disent dans Genèse 24, au verset 57-58, alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Elle est entrée. Elle est devenue l'épouse d'Isaac. Elle est entrée dans la famille d'Abraham. Elle est rentrée dans toute la bénédiction. Puis ses enfants étaient des descendants d'Abraham. Mais si à ce moment-là, elle aurait pu dire non, elle avait vu les richesses, elle avait vu les chameaux, elle avait vu, il avait mis un bracelet, il avait mis un collier, il avait montré les richesses de son maître. Mais elle a dit oui, elle est allée, puis elle est entrée. Mais si elle avait dit non, bien, il aurait retourné, puis elle n'aurait rien eu, elle ne serait jamais entrée dans ces bénédictions-là. Donc, c'est important. Vous savez, il y a des gens qui viennent tellement près du salut. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de voir des gens qui sont venus tellement près du salut qu'on pensait qu'ils étaient sauvés. Ils étaient vraiment proches, puis tout d'un coup, à cause d'une situation, à cause d'une relation, à cause d'une persécution. Ils sont retournés, ils ont viré de bord complètement. Puis ces gens-là, là, on dirait qu'ils deviennent arrogants. Ils viennent plus, ils sont plus repentants. Ils deviennent arrogants. Puis c'est vraiment. Moi, j'ai vu trois personnes qui s'appelaient toutes les trois Pierre Ross. L'un, c'était Jean-Pierre Ross. Puis les deux autres, c'était Pierre Ross. Puis ils ont fait toutes les trois la même chose. Ils sont venus tellement proches du salut qu'à un moment donné, on pensait qu'ils étaient sauvés. Puis tout d'un coup, à cause d'une situation, ils ont viré. Puis ils ont plus été. Après ça, ils étaient arrogants, puis ils n'étaient plus ouverts du tout. C'est pour ça que je me dis, des fois, si je rencontre un autre Pierre Ross, je ne lui parle pas du Seigneur. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas sauvé. Mais c'est drôle pareil, là, que ces trois Pierre Ross, ils ont fait toutes les trois la même chose. Mais c'est pour ça que ceux qui ont venu à cette étape-là, puis qui ont refusé, ben pourquoi qu'ils seraient ramenés à cette étape-là? Ils ont déjà fait leur choix. Le Seigneur veut respecter leur choix. Il est impossible qu'ils soient ramenés à la même place, à la repentance. Ils ont fait un choix en pleine lumière devant l'Évangile. L'homme est tenu responsable. Puis de ne pas recevoir l'Évangile du Seigneur Jésus, ben, c'est une désobéissance. Parce que le Seigneur nous dit, il annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. S'ils ne se repentent pas, ben, c'est leur choix, puis c'est une désobéissance. Puis Dieu va respecter leur choix. Comme on a dit, Judas était un de ceux-là. Le Seigneur, il a dit à Judas, quand il lui a donné un baiser, il dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Puis, mais Judas, il a fait son choix. Puis le Seigneur, il a respecté son choix. Donc, si on refuse la lumière, on se condamne aux ténèbres. Ça, c'est important. Si on refuse la lumière, on se condamne aux ténèbres. Mais d'un autre côté, il faut faire attention, nous autres, de juger quelqu'un comme ça. Il faut faire attention parce qu'on n'est pas sûr, nous, de ce qui s'est vraiment passé dans leur cœur. On peut voir ce qui se passe à l'extérieur, mais on ne peut pas voir ce qui se passe dans le profond intérieur, là. Si vraiment cette personne-là a été amenée à ce point-là. Fait qu'il faut faire attention pour pas l'en juger. Peut-être qu'ils n'ont pas arrivé à ce point-là. Puis, en n'ayant pas arrivé à ce point-là, ben, ils ont pas fait un choix éclairé, qu'on pourrait dire. Donc, ça, c'est entre eux autres puis le Seigneur. Mais si oui, comme j'ai dit, ils deviennent arrogants puis ils n'ont plus de crainte. Mais Dieu va les tenir à leur décision. Maintenant, c'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui peuvent avoir une interprétation différente du passage. Puis, en autant que l'interprétation ne, parce que c'est des passages qui sont quand même difficiles, mais en autant que l'interprétation ne rentre pas en conflit avec d'autres passages de l'Écriture qui sont clairs. Ça, on interprète toujours un passage difficile à la lumière des passages qui, eux, sont très clairs. Donc, ça, c'est important. Dans les versets 7 à 8, il dit, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. C'est sûr que la terre qui reçoit l'eau du ciel, ben, puis la lumière du soleil, ben, c'est pour produire quelque chose, pour produire du fruit. Mais si elle produit rien de bon, mais qu'est-ce que ça donne? On va y mettre le feu. Elle est inutile. Le Seigneur s'attend à ce que, quand il donne sa bénédiction qui vient du ciel, bien, il veut qu'on réponde. On réponde pas dans l'affirmative. Éventuellement, si on répond pas, bien, à un moment donné, c'est le jugement de Dieu. Dieu est patient, mais un jour, sa patience arrive à son terme. Puis c'est ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il va y avoir un jugement à la fin. Le Seigneur ne va pas continuer éternellement. Il y a un temps qui est déterminé où le jugement va venir sur les pécheurs qui ne se sont pas repentis. Il leur a donné un temps pour se repentir. Puis s'ils ils se repentent jamais, bien, à un moment donné, ils vont avoir le jugement qui va leur arriver. Donc, si on ne reçoit pas l'Évangile, c'est la même chose que de la rejeter. Puis si on la rejette, ben, c'est les ténèbres. C'est pour ça que c'est le danger, des fois, des enfants. Des fois, on dit ça, hein, plusieurs de nous autres, on a été sauvés après qu'on a grandi, après qu'on n'était plus des enfants, quand on est devenu des hommes, des femmes, on a connu le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur. Il y a des enfants qui sont nés dans des familles chrétiennes, qui depuis leur tout jeune âge, depuis leur naissance, ils ont entendu parler du Seigneur Jésus. C'est tout un grand privilège, ça. Et des fois, moi, je me disais, j'aurais aimé ça, pouvoir connaître le Seigneur quand j'étais petit. Mais il y a aussi une responsabilité, parce que des fois, c'est difficile pour ces gens-là qui ont grandi là-dedans d'en venir à saisir le salut, parce que c'est comme des fois, il y en a qui disent, ben moi, j'ai tout le temps cru ça, que j'étais un pécheur. Je l'ai entendu depuis que j'étais un petit bébé. Puis j'ai tout le temps cru ça, que le seul qui pouvait sauver, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais comment qu'on fait pour croire? Je crois ça, mais c'est de croire en salut, de pouvoir dire, je suis sauvé. Je peux croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Je peux croire que je suis un pécheur. Mais si, il faut que je croie d'une façon à ce que je puisse dire, je suis sauvé. J'ai la vie éternelle parce que j'ai mis ma confiance dans l'œuvre que le Seigneur Jésus a fait sur la croix pour moi. Puis je prends Dieu au mot. Je m'appuie sur ce que Dieu dit. Je m'appuie sur la promesse de Dieu. Puis je peux dire que maintenant, je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. C'est la seule façon qu'on peut affirmer, qu'on peut confesser de notre bouche. Dans Romains nous dit, si on croit dans notre cœur, puis qu'on confesse de la bouche. Fait que la foi, c'est la foi qui nous amène à confesser de la bouche pour pouvoir dire, moi, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Fait que c'est ça qui est important. Donc, mais, vous savez, il y a des enfants qui ont été élevés dans l'Évangile toute leur vie, puis ils rejettent l'Évangile. Ça, c'est un peu, je vois un peu comme ça, là. Eux, ils ont comme été éclairés, puis ils en viennent à rejeter l'Évangile. Il y a beaucoup d'artistes dans la musique rock qui, si on regarde leur histoire, ils ont été élevés dans des familles chrétiennes, où ils ont été élevés avec la parole de Dieu. Puis, sont vraiment, on voit que vraiment, ils sont arrogants. Dans la musique qu'ils font, les paroles de leur musique sont. Ouais. Puis même, on peut voir des traces des vérités bibliques dans leur chansons. On voit que des fois, là, ils réfèrent à des choses qui sont de la parole de Dieu. Mais on dirait qu'ils n'ont plus aucune crainte de Dieu. Ils n'ont plus aucune crainte de Dieu. Puis ça, c'est important. Souvent, il y a beaucoup qui ont été élevés dans des milieux chrétiens avec la Bible, puis se sont détournés. Pourquoi? Pour la gloire, pour avoir une gloire, puis dans le monde, avoir de la richesse, de la gloire et du pouvoir. Mais au verset 9, on voit que l'auteur ici n'est pas défaitiste non plus, parce qu'il dit au verset 9, quoique nous parlions ainsi. C'est sûr que c'est comme un avertissement sévère qu'il vient de donner là. C'est un avertissement vraiment difficile, mais il dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés. Donc, il parle à des gens qui sont chers. Nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Pas qu'on produise des épines puis des ronces. Ils s'attendent de voir du fruit positif, du fruit de salut dans ces gens-là. Il dit, car, verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc ici, l'auteur, il n'est pas défaitiste, mais il montre sa confiance dans ces Hébreux-là. Il voit qu'il y a eu du fruit en eux qui était digne du salut. Parce que nous, on ne peut pas voir la foi. Comme Jacques, il dit, hein, montre-moi ta foi sans les œuvres, je ne peux pas la voir. Mais moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Donc on est justifié aux yeux des hommes par les œuvres. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction entre Jacques et Paul. Jacques, il dit que la foi sans les œuvres est morte. Puis il dit, quand il dit, montre-moi ta foi, puis moi je vais te montrer ma foi par mes œuvres, ça veut dire qu'aux yeux des hommes, nous, on ne la voit pas, la foi. Mais on voit la différence. On voit le fruit que portent ceux qui ont la foi. C'est pour ça qu'il dit qu'on est justifié aux yeux des hommes par les œuvres. Mais aux yeux de Dieu, c'est par la foi qu'on est justifié. Puis, parce que Dieu voit le cœur, il voit ceux qui se sont confiés en lui, puis ça leur donne la vie éternelle. Donc, Dieu, il connaît toute notre situation, puis le Seigneur aussi, il apprécie. On parlait des œuvres mortes auparavant, c'est des œuvres qu'on avait faites pour être sauvés. Ça compte pas, c'est des œuvres qui sont détruites, mais les œuvres qu'on a faites après être sauvés. On ne les a pas faites pour être sauvés. On les a faites parce qu'on était sauvés, en reconnaissance pour le Seigneur, un service qu'on lui est rendu, pas pour gagner le salut, parce qu'on l'a déjà. Vous savez, mais des fois, je mets ça comme, j'explique ça un petit peu comme ça, des fois, c'est comme si on était sur le quai à New York, puis qu'on voulait aller en Europe. Puis, c'est certain que par les œuvres, ce serait de me jeter à l'eau puis d'essayer de nager en Europe. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui vont peut-être nager bien plus loin que moi, mais ils ne se rendront jamais en Europe parce que c'est impossible. Il y a l'hypothermie, comment on serait un bon nageur, puis même on n'aurait jamais l'énergie pour se rendre en Europe, c'est impossible. Mais si quelqu'un avec un paquebot à côté qui me disait, ben, tu as embarqué, je vais t'emmener en Europe. C'est que là, ben, il t'offre d'embarquer pour aller en Europe. Ben, c'est sûr qu'avec lui, tu vas te rendre en Europe parce qu'il y a les moyens qui sont là pour se rendre en Europe. Il y a un paquebot qui, lui, est capable, fait déjà la traversée plusieurs fois, puis dit, OK, là maintenant que je suis embarqué sur son paquebot, je m'en vais en Europe. Mais même s'il y avait une piscine sur le paquebot, comment que j'essaierais de nager pour aller plus vite? Je n'irai pas plus vite parce que je vais aller à la vitesse du paquebot. Mais peut-être, ça serait d'essayer encore par mes œuvres. Ça ne donnera rien. Mais si, par exemple, parce que je dis au capitaine du paquebot, ben, je dis, ben, je suis vraiment content que tu m'aies offert de m'apporter en Europe. Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour te remercier? Je ne peux pas payer pour le billet, mais au moins, durant la traversée, j'aimerais ça. Peut-être que je pourrais laver le pont ou faire des choses pour te servir. Même si je ne le fais pas, je m'en vais pareil en Europe. Parce que le paquebot s'en va en Europe avec le capitaine qui le conduit. Mais en appréciation, je dis, ben regarde, moi j'aimerais te montrer mon appréciation. C'est comme ça le salut. C'est sûr qu'une fois sauvé, on ne peut pas aller plus vite. Le Seigneur, il nous a sauvés. On est sauvé parfaitement. On n'a rien à faire. Mais pour apprécier, remercier le Seigneur, ben, on veut offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Mais Dieu, il apprécie ces choses-là. Ce n'est pas une œuvre morte comme on avait vu au chapitre 6, au verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ça, ce n'est pas des œuvres mortes ici maintenant. C'est des œuvres à cause du salut, pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. Puis le Seigneur apprécie ces choses-là. Il n'y a rien qui va avoir été fait pour le Seigneur après qu'on a été sauvé, en reconnaissance pour le remercier de son don. Il n'y a rien qui va avoir été fait pour le Seigneur qui n'aura pas la récompense du Seigneur. On va tous paraître au tribunal de Christ. Puis ce qui va être de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ils vont recevoir la récompense. Si on a construit avec du bois, du foin, du chaume, ça va brûler, puis il n'y aura pas de récompense. On va perdre une récompense. On va être sauvé, mais comme au travers du feu. Mais si on a fait des bonnes œuvres pour le Seigneur, bien, le Seigneur, il va donner la récompense. Même un verre d'eau donné en son nom va recevoir la récompense du Seigneur. Comme 1 Corinthiens 3, 8 dit, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ça, c'est le Seigneur, il voit toutes les choses qui se font. Des fois, peut-être qu'on dit, ah, mais les gens n'apprécient pas ce que je fais dans l'assemblée, ou le Seigneur, lui, l'apprécie. Puis, on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour le Seigneur. Puis, il n'y a rien qui va passer inaperçu aux yeux du Seigneur. Je me souviens que Ralph Chalice, il disait ça. Il disait, moi, je ne serais pas surpris au tribunal de Christ de voir le Seigneur me dire, tasse-toi un petit peu, Ralph, regarde cette femme de ménage-là, là. Regarde, je vais montrer qu'est-ce qu'elle a fait, elle, pour moi. Puis il dit, elle va avoir une plus grande récompense parce qu'elle va avoir été plus fidèle, elle va avoir été plus, elle va avoir offert plus au Seigneur. Et le Seigneur le montre, hein, avec la femme qui a offert les deux petites pièces d'argent, là. Il dit, elle a donné plus que toutes les autres parce qu'elle a donné son nécessaire. Donc, c'est le Seigneur. Il voit toutes ces choses-là, puis lui, il va récompenser dans son temps. C'est pour ça qu'on ne le fait pas pour recevoir une récompense ici par les hommes, mais on le fait pour avoir la récompense du Seigneur, puis on le fait pour que le Seigneur, lui, le voie, puis qu'il l'apprécie. Au verset 11-12, il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Maintenant, ici, il parle à ceux qui sont sauvés. C'est important qu'on montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. La vie chrétienne, c'est pas une vie qui est dans le doute. C'est une vie qui est dans la certitude. C'est un fondement solide pour avancer, aller de l'avant. Dans les religions, ils n'ont pas de certitude. Ils font les choses qu'ils font, mais sans jamais être sûr que ça va être assez. C'est un peu comme une échelle, hein? On monte une échelle, puis quand on est en bois, on voit que l'échelle, elle monte jusque dans les nuages, puis on continue à monter l'échelle. Ça, c'est comme la religion, avec les bonnes œuvres, on monte l'échelle pour arriver en haut de l'échelle, puis s'apercevoir qu'elle ne se rend pas. Elle est peut-être dans les nuages, mais elle ne se rend pas encore au ciel. Fait que tu arrives au bout de l'échelle, puis il n'y a rien, tu ne peux plus aller plus loin, c'est fini. Fait que c'est un peu comme ça dans les religions. Les gens avancent, ils font des choses, ils font des œuvres dans les religions, mais sans jamais avoir cette certitude-là. Imaginez-vous, nous, on a un grand privilège. Nous, on travaille pas avec l'incertitude, mais avec la certitude. C'est ce qui nous pousse de travailler encore plus pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il parle ici, il revient à ce qui fait persévérer. C'est quoi qui nous fait persévérer? C'est l'espérance. Des fois, quand on est rendu à bout, là, on est en train d'essayer de se rendre quelque part. Puis la nuit tombe sur nous, puis on devient accablé, fatigué, on a faim, on est. Puis c'est quoi qui va nous faire continuer? Mais c'est l'espérance d'arriver au bout. C'est l'espérance que quand on va arriver au bout, ça va être la récompense, elle va être là. Puis c'est ça qui nous parle ici. Donc la persévérance nous fait entrer en possession des promesses. Les promesses de Dieu ne peuvent pas nous tromper parce qu'elles sont infaillibles. Donc, ici, Dieu nous a fait une promesse, puis c'est ce qui fait en sorte que on va persévérer jusqu'au bout. Espérer dans des fausses promesses, c'est une grave erreur. Le Seigneur dit, celui qui croit en moi ne sera point confus ou il n'aura pas honte. Quand il va arriver à la fin, il n'aura pas mis sa confiance en vain parce que le Seigneur, bah, c'est des promesses du Seigneur. Mais il y a des gens qui mettent leur espérance dans des promesses humaines, puis ils vont être désappointés parce que c'est une grave erreur de mettre sa confiance dans des fausses promesses, mais de les mettre dans les promesses que Dieu a faites. C'est pour ça qu'une fois en prêchant l'Évangile, les gens ils ont de la misère, hein, ils disent, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas n'a point la vie. Puis là, on leur demande, eh ben, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Ben, ils disent, ben oui, je crois. Est-ce que tu as la vie éternelle? Ben, j'espère. Parce qu'il ne croit pas la parole de Dieu, il ne croit pas la promesse de Dieu. Dieu a dit, celui qui croit a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas n'est pas sauvé, il est condamné. Mais celui qui croit, fait qu'on met notre confiance dans la promesse de Dieu, puis Dieu ne peut pas mentir. Ça, c'est important de comprendre ça, que Dieu ne peut pas mentir. Donc, c'est une grave erreur de mettre notre confiance dans des fausses promesses, mais de les mettre dans les promesses du Seigneur. Ça, c'est la vie éternelle. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous parle de 18 personnes qui ont persévéré pour obtenir les promesses. Et vous, dans le verset 15 du chapitre 6, ici, il dit, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Donc, Abraham a persévéré, il a obtenu la promesse. Puis, il y a 18 personnes, étant entourées d'une si grande nuée de témoins, courant dans la carrière, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc, on a une carrière d'ouverte devant nous, puis on doit courir, ayant les regards sur Jésus, sur les promesses que lui a faites. Vous savez, dans la vie, il y a des différents, des fois, on arrive à des différents. C'est pour ça qu'il y a de la cour de justice, hein? Parce que quand il y a un différend, ben, ça finit. Si on ne réussit pas à s'entendre, eh ben, on se ramasse devant le juge, puis avec les avocats, puis une cour de justice. Il y a des différends dans la vie. Puis pour s'entendre dans ces différends-là, pour régler une situation, qu'est-ce qui fait qu'il arrive? Ben, on en vient à faire une promesse. Voyez-vous, verset 16 du chapitre 6, il dit, Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. Donc, c'est comme ça que pour régler encore aujourd'hui dans la cour, il nous demande de jurer en mettant la main sur la Bible. Donc, dans le cours de justice. On demande de jurer sur la Bible. Le Seigneur, lui, nous dit de ne pas jurer. Il dit dans Matthieu 5, 34, 37, « Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. » C'est Donc, nous, on n'est pas au contrôle de tout. Moi, je peux faire des promesses, puis pas être capable de les accomplir. C'est important. Faut pas jurer des choses qu'on n'est pas sûr d'accomplir. Mais le Seigneur, lui, peut accomplir toutes les promesses que lui il fait. Puis, comme Jacques dit dans Jacques 5, versets 13 à 15, il dit, À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui n'avez pas, vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont quoi? Les gens sont déloyaux. Il n'y a pas de loyauté aujourd'hui. Les gens vont dire n'importe quoi, puis ils n'accomplissent pas ce qu'ils disent. C'est ce que 2 Timothée 3:3 nous dit, que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Puis une des caractéristiques, c'est que les hommes seront déloyaux. Aujourd'hui, avant ça, on faisait une poignée de main, puis on donnait la main, puis c'était réglé. Mais aujourd'hui, tu as même beau signer des papiers, faire des promesses, mais les gens ne tiennent pas leurs promesses. On le voit dans le mariage. Parce que le mariage, c'est un engagement. On a fait des vœux devant le Seigneur jusqu'à ce que la mort nous sépare. Puis à un moment donné, il arrive un problème, puis hop, on s'en va. Si on gardait la promesse, on persévérait, puis on réglerait les problèmes. Mais ici, comme au verset 17, il dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Donc ici, il y a une promesse qui est faite, puis après ça, il y a un serment. La promesse, elle, c'est ça en quoi on met notre foi pour nous faire entrer. Mais le serment, lui, il nous fait persévérer après qu'on est entré. C'est important de voir ça. Mais je pense que, si je veux laisser d'habitude, des fois, je vais un peu trop loin, puis on n'a pas le temps vraiment d'avoir des questions puis des commentaires. Fait que je vais m'arrêter là pour ce soir. On en parlera de cette promesse-là et du serment que Dieu a fait. La semaine prochaine, Seigneur voulant, on gardera ça plus en détail. Mais je vais m'arrêter là pour ce soir, puis je vais vous donner la possibilité de reprendre votre micro. Quand je vous donne la possibilité de reprendre votre micro, eh bien, ça un petit peu. C'est pas non, là, vous avez juste à mettre à peser sur votre micro, ça va arriver. Vous allez avoir la parole. Si jamais vous avez de la difficulté, ben laissez-moi savoir, puis je vais vous redonner la possibilité de pouvoir prendre votre micro. Fait que je m'arrête, puis je vous écoute.
C'est vrai qu'au verset 4, c'est confondant parce que ça dit que ils ont goûté aux dons célestes, puis ils ont eu part au Saint-Esprit.
Oui, c'est ça, ouais. Mais oui, c'est ça, ils ont goûté, c'est ça, mais c'est dans l'œuvre de conviction, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Fait que le Saint-Esprit a fait un travail en eux pour les éclairer, mais il n'avait pas encore dit oui à ce moment-là. C'était pour les emmener au salut, les emmener à prendre la décision.
Ah, c'était plus clair, merci.
OK. Ouais.
Merci beaucoup, Gérald. Qu'est-ce qui arrive à une personne qui a une déficience intellectuelle, qui n'est pas en mesure de comprendre à cause qu'elle est limitée dans sa personne, dans sa propre personne, puis qu'elle arrive à la porte, puis elle n'est pas en mesure de prendre cette décision-là à cause de cette déficience-là intellectuelle? Qu'est-ce qui peut arriver à cette personne-là?
C'est un peu comme les enfants qui sont, on parle de l'âge de responsabilité. On dit que des enfants qui sont morts avant d'avoir eu cet âge capable de prendre une décision. Mais il y a des gens qui nous disent que ces gens-là sont tous sauvés. Moi, je n'arrive pas à affirmer ça avec la parole de Dieu. Parce que le Seigneur va être juste, ça, je suis certain de ce que le Seigneur va faire avec ça. Ça va être parfaitement juste. Mais moi, je n'ai pas la conviction, je n'ai jamais pu avoir la conviction par la parole de Dieu que tous ces gens-là sont sauvés. Parce que si on parle de ceux qui n'ont pas la capacité intellectuelle de prendre des décisions ou des enfants qui sont en bas âge, mais je pense que le Seigneur, moi je crois que le Seigneur ne nous le révèle pas vraiment. Parce que qu'est-ce que ça dérangerait si on savait? Ça serait juste une question de curiosité. Parce que
Ouais.
si, d'autres, un enfant qui est tout petit ou quelqu'un même qui est simple, on lui prêche l'Évangile, puis on laisse le résultat dans les mains du Seigneur. Le Saint-Esprit peut travailler sur son cœur. Mais le fait qu'on sache qu'est-ce qui va arriver ou non, ça dérange rien. Puis je ne crois pas que le Seigneur nous l'a révélé. Il y a des gens qui vont affirmer que oui, mais moi, je n'ai jamais pu avoir cette conviction-là. Puis dans un sens aussi, c'est que ça serait bien plus avantageux de mourir en bas âge, puis d'aller au ciel, que de vivre, puis d'être perdu.
Ouais.
Fait que moi, je peux pas affirmer ça.
Merci, Gérald.
OK.
Mais quand
Ouais,
le fils de
Gérald.
Salomon il est décédé, qui est mort, puis le fils de David, excuse,
David.
il dit, j'irai vers lui. Lui, il peut pas revenir vers moi, mais moi, j'irai vers lui. Ça signifie.
Ben, c'est ça, parce que, mais encore
Souvent,
là,
s'il sert de ce verset-là.
moi, je sais qu'ils se servent de ce verset-là, mais qu'est-ce que David voulait dire? Est-ce qu'il allait aller vers lui dans la mort? C'est pas quelque chose de clair. C'est pas, pour moi, c'est pas assez clair pour affirmer cette chose-là, de dire que toutes les. Puis, comme il y a quelqu'un qui a donné une question heureux les pauvres d'esprit, mais c'est pas quelque chose de clair, assez pour me dire qu'ils sont sauvés. Le Seigneur connaît les cœurs, mais je sais une chose, qu'est-ce que le Seigneur aura fait dans la situation va être parfait, parce qu'il fait tout à perfection.
Il n'y a pas d'autre passage dans la Bible qui peut éclairer là-dessus,
Ben,
pas vraiment.
moi, j'en ai jamais vu. J'ai jamais vu de passage qui nous affirme clairement qu'ils sont vraiment. Richard, je
Gérald,
pense que tu avais quelque chose à dire.
ouais, moi j'ai un certain raisonnement là-dessus.
OK.
Hein, je me dis, Dieu veut que tous soient sauvés. Fait que je me suis dit, c'est la volonté de Dieu de sauver tout le monde. Évidemment, eux autres, ils n'ont pas la connaissance. Puis, moi, j'étais pleinement en confiance au Seigneur quand j'y ai donné ma vie. Fait que je me dis, puis en fait, on sait qu'on est un Dieu parfaitement juste. Fait que là, je me dis que ultimement, ce que je dois faire, c'est de faire confiance au Seigneur, de remettre entre les mains du Seigneur ces cas-là qui nous dépassent et qu'on n'a pas la révélation, non.
Exactement, c'est ce que je crois aussi là.
Mais
Ça
j'ai
dérange.
beaucoup d'éléments qui me rassurent en disant ça va être juste, ça va être parfaitement. Ça
Ah
va
oui.
être parfait.
Ça veut rien dire.
J'ai une réflexion par rapport à ça. Quand on est venu au Seigneur, on était pécheurs.
Ouais.
On est venu au monde pécheur.
C'est ça.
Moi, je ne vais pas plus loin que ça. Et ça fait penser aussi, quand on a dit, quand le Seigneur a dit, on a l'exemple dans les Actes des apôtres, acte 2, quand Pierre a parlé ce premier discours qui annonçait l'Évangile, il y avait des milliers de personnes qui ont entendu le même message, mais il y a juste 3 000 qui ont cru.
Ben, c'est ça,
Les autres ont tous entendu la même chose.
c'est ça, le Seigneur dit, celui qui croira sera sauvé.
C'est ça. Là,
Mais
ceux qui ont cru, ils ont dit, que ferons-nous?
ouais, c'est ça.
Ils ne savaient pas quoi faire.
Non, mais ouais.
C'est ça, c'est leur décision.
C'est ça. Il y a une question qui est venue par message, là, c'est est-ce que les enfants en bas âge vont être enlevés à l'enlèvement? Ben, c'est encore là. On ne peut pas dire exactement, c'est le Seigneur, mais on sait une chose, comme Richard dit, puis moi, je crois ça aussi, que le Seigneur va être parfaitement juste, mais lui, il va avoir la situation entre les mains, mais on confie en lui parce qu'on sait qu'il est parfaitement juste.
Le Seigneur a dit dans Isaïe 55, nos pensées ne sont pas ses pensées.
Ben, c'est
Ce
ça.
qu'on pense,
Ouais. Puis
Dieu, il pense pas la même chose que nous autres.
nos voix ne sont pas ses voix, puis ses voix ne sont pas nos voix. Ouais. Mais lui, il fait tout à perfection. Ça va être parfaitement juste. Puis que qu'on le sache, moi, c'est un peu qu'est-ce que je vois, c'est qu'on sache qu'est-ce que ça va changer. C'est plutôt juste une question de curiosité. Les choses cachées sont à l'éternel, les choses révélées sont à nous, puis pour l'homme et le fils des hommes.
Ouais, moi j'aurais une réflexion aussi, là.
OK.
On vient de voir derrière la Bible, là, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.
Ouais.
Ben, même s'ils ne sont pas très intelligents spirituellement, ils peuvent croire pareil.
Oui, c'est vrai. Parce que, oui, des fois, il y en a qui sont simples, mais le Saint-Esprit est capable de les éclairer.
Oui.
Ouais.
Puis dans le cœur, il croit.
Il y a un gars que je connais dans une assemblée, puis lui a continué de venir à l'assemblée pour l'union de l'Évangile, tout ça. Puis c'est un gars qui est simple. Il est simple d'esprit. Mais puis même, il veut pas faire partie de l'assemblée, mais ça devient évident que ce gars-là, il a accepté le Seigneur. Il aime les choses du Seigneur. On voit qu'il y a eu un changement dans lui. Puis, comme tu dis, oui, même s'il est simple d'esprit, le Seigneur est capable de le faire. Puis, des fois, d'être trop intelligent, ça devient plus un obstacle qu'un atout. Il est très intelligent, Seigneur. Il dit, je te loue, Père du ciel, Seigneur, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as révélé ces choses. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, puis tu les as révélées aux enfants.
Ouais. Ouais, moi, je suis un simple d'esprit, puis je crois.
Ben oui.
Mais les simples d'esprit, dans les béatitudes, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances, justement. Les humbles.
Ben, je pense que c'est ça, c'est de ceux qui sont orgueilleux. Ils pensent qu'ils sont bien grands, mais tu sais, comme quand on pense à des chefs religieux, comme moi, il m'avait dit, il dit, toi, tu vas me dire que je suis dans l'erreur. Parce qu'il dit, moi, j'ai 7 ans d'université, puis 27 ans de
C'est ça.
maîtrise, puis toi, tu vas me dire que je suis dans l'erreur. Moi, je n'étais rien. Je n'avais pas des titres comme lui, j'avais pas. Mais moi, j'ai dit, c'est ça que je lui ai dit, je te loue, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. Puis je pense que c'est ça, c'est qu'on devienne humble d'esprit, tu sais, qu'on réalise qu'on a besoin. Ceux qui ne réalisent pas leurs besoins ne se repentent pas de leurs péchés. Puis le Seigneur dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également.
Ouais, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu.
Parce qu'un enfant, tu lui proposes, puis c'est ça qui est merveilleux avec les enfants. On peut leur proposer l'Évangile, puis ils reçoivent ça, là. Parce qu'ils n'ont pas rien, ils n'ont pas des pensées qui viennent contredire l'Évangile. N'ont pas d'argument.
Pour moi, les pauvres en esprit, je le voyais comme des gens qui ne se sentent pas à la hauteur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux.
Ils reconnaissent qu'ils sont. Parce que c'est ça, ceux qui se croient très intelligents,
N'ont pas besoin du Seigneur. Hein? Ils n'ont pas
L'argument.
besoin du Seigneur.
Ouais.
À propos de ton échelle tantôt, Gérald,
Ouais.
j'aurais un verset que j'aimerais lire. Tu peux aller voir dans la Bible aussi. C'est dans Romains chapitre 10.
Okay.
Je pense que ça allait un petit peu dans l'esprit. Romains chapitre 10, le verset 7, le verset 6. Romains 10, verset 6 et 7. Et je vais te laisser lire en même temps.
Okay. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Oui.
Alors, tu parlais tantôt d'une échelle.
Ouais.
Il monte l'échelle, il arrive à un moment donné qu'il est limité. Il est limité, il ne peut pas s'y rendre. Mais je vois dans ce verset que on n'a pas besoin de monter dans cette échelle parce que Christ est descendu en bas. Est-ce que je comprends bien?
Mais je pense que c'est que de nous autres de juger, parce que la foi, on ne la voit pas. Puis je crois que le verset veut dire ici que nous, on ne la voit pas la foi. Puis on dit, ah ben lui, il n'est pas sauvé, puis lui, il est sauvé. Il faut faire attention à ces choses-là parce qu'il ne faut pas dire qui va monter au ciel, qui va descendre, parce que celui qui a la foi est sauvé. Mais c'est possible pour quelqu'un qui a la foi de vivre comme quelqu'un qui n'a pas la foi. C'est pour ça que moi, si les gens me demandent, crois-tu que lui est sauvé ou pas sauvé, ben, on voit la foi par les œuvres, mais nous, on ne voit pas la foi. S'il n'y a pas d'œuvre, on ne voit rien. C'est un peu comme Jacques qui dit, il dit quelqu'un qui dit à quelqu'un qui est dans le besoin, va, puis mange, puis chauffe-toi, puis il ne lui donne pas ce qu'il a besoin pour se manger, puis se chauffer. C'est comme quelqu'un qui me dit, moi, je suis sauvé, puis il ne donne pas l'évidence de son salut. Fait que s'il ne me donne pas l'évidence de son salut, ben je me dis, je m'excuse, là, mais je ne peux pas croire à ton salut parce que je ne le vois pas.
La foi sans les œuvres, elle est morte.
Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que peut-être on pourrait terminer. Oui, on est dépassé un petit peu notre temps. Fait qu'on va terminer par un mot de prière, puis ceux qui doivent partir peuvent partir, mais s'il y en a qui veulent continuer à jaser, on peut jaser après. Seigneur, notre Dieu, on te remercie, Seigneur, pour ta parole. On te remercie. On sait qu'il y a des choses, des fois, parfois difficiles à comprendre. Puis, mais Seigneur, toi, tu peux nous éclairer par ton esprit, puis tu peux nous montrer les choses que tu veux nous révéler. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Puis on respecte, Seigneur, les choses que tu as cachées, on les respecte. On sait que tu es parfaitement juste. On a pleinement confiance en toi. Mais pour les choses révélées, Seigneur, on t'en remercie. On te rend grâce pour tout. Merci pour ce temps passé ensemble ce soir. Dans ta parole, merci pour tous ceux qui se sont connectés ce soir, Seigneur. C'est vraiment encourageant d'être ensemble. Puis on te prie pour la conférence à Rivière-du-Loup aussi. On te demande d'avoir ta main là-dessus, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.